C'est le premier grand test de l'année en microéconomie hein, pour savoir comment se déroule 2024 pour les entreprises. Les résultats du premier trimestre qui sont alors globalement attendus en hausse hein, de 3% profits et revenus, donc tous secteurs confondus. On en parle avec vous, John Plassard, bonjour. Vous êtes spécialiste en investissement hein, pour la banque Mirabeau. Bon, comme c'est tradition, vendredi, ce sont des banques qui ont commencé à publier. Alors, on va parler de JP Morgan parce que la sanction boursière a été quand même assez rude, moins 6%. Les attentes ont été battues, mais bien sûr, ce sont plutôt les perspectives qui ont été assez modestes, un petit peu moins réjouissantes. C'est ce à quoi on doit s'attendre sur finalement l'ensemble des publications. Ça a donné le là.
Pas vraiment, je dirais. C'est vraiment spécifique au secteur bancaire. Alors, si vous prenez le cas de JP Morgan, pas oublier qu'on était, on n'est pas très loin des plus hauts historiques. Donc, il suffit qu'on déçoive un tout petit peu dans les attentes pour que la sanction soit extrêmement forte, puisque l'action a baissé de plus de 6%. Ce qu'il faut rappeler ici, et je pense que ça, c'est le message peut-être le plus important qu'on a et qui potentiellement, lui, peut être aussi un indicateur pour les autres secteurs, c'est le message qui nous a été donné par les banques, que ce soit Citi ou JP Morgan vendredi, c'est que l'économie continue d'être forte, donc on est content hein, qu'on est toujours dans une situation où on est dans un soft landing ou dans un no landing, ça c'est une autre question, mais que les banques commencent à ressentir les effets des taux d'intérêt plus élevés. Alors vous allez me dire, normalement des taux d'intérêt plus élevés pour les banques, eh ben, c'est quelque chose de positif puisque vous avez les revenus nets d'intérêt qui sont boostés, mais ici les banques en général nous disent que globalement, eh bien, ces taux d'intérêt qui sont élevés, eh bien, ont un impact négatif sur la demande finale du client, c'est-à-dire la demande de prêt, la demande hypothécaire, etc., etc., qui
vu,
sont
oui.
aussi perdus. Donc ici, on est dans une situation un peu différente et je dirais que c'est le premier message, le premier message fort qui nous indique que ces taux d'intérêt toujours élevés, qui vont certainement rester élevés cette année, eh bien, sont négatifs pour les revenus des banques.
Oui, donc ça concerne évidemment les banques. Concernant JP Morgan, on a aussi peut-être une explication supplémentaire. Jamie Dimon, on sait qu'il s'est exprimé la semaine dernière dans une lettre annuelle. Il est quand même très pessimiste, très noir sur les risques hein, que connaît l'économie mondiale. Ça ne démotive pas quand même les investisseurs sur son titre?
Alors, pas vraiment. Alors, je dirais déjà, on connaît Jamie Dimon en étant extrêmement négatif. Hein. Il a toujours fait… C'est pas l'économiste, enfin, vous le savez évidemment, Aude, mais c'est pas l'économiste de la banque. Donc, il a toujours été très négatif et à l'encontre de ce que disait l'économiste de JP Morgan. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que effectivement, c'est lorsque vous avez des problématiques, notamment sur le secteur commercial aux États-Unis, eh bien, où est-ce que vous allez parquer votre argent? C'est pas sur les banques régionales qui, elles, sont exposées à la problématique commerciale aux États-Unis, eh bien, c'est plutôt vers les grandes banques. Et on sait que…
Oui, le flight to quality, on en parlait, c'est vrai, tout à l'heure avec Charles Sanna, vers les gros qui rassurent, en fait.
Exactement, tout à fait. Et on voit aussi ça dans d'autres pays, et notamment en France, que des banques comme BNP Paribas, si on prend l'exemple français, eh bien, ce ne sont pas les banques qui ont le plus baissé, bien au contraire. Et donc, c'est flight to quality ici. Alors, évidemment, il donne un avis sur les incertitudes mondiales qu'il y a. On sait que même si les bourses montent depuis fin novembre, eh bien, il y a quand même pas mal d'incertitudes, que ce soit géopolitique, on l'a vu ce week-end, ou évidemment que ce soit sur la croissance européenne et chinoise. Mais aux États-Unis, je vous rappelle quand même que le premier trimestre devrait être de plus de 2% et la récession qui était tant attendue depuis 12 mois ne tape toujours pas à la porte.
Alors dans la banque comme ailleurs, ça veut dire quoi si on est arrivé à des rythmes de croissance là, pour ces derniers résultats, croissance de revenus et de profits assez insoutenables?
Oui, d'une certaine manière. Puis, vous savez, Aude, on était quand même dans une situation, on pourrait dire qu'on l'est toujours, ce qu'on appelle la situation d'une économie boucle d'or, qui a été une aubaine pour les banques américaines, c'est-à-dire que vous avez une croissance économique, comme on l'a dit, qui est fort, vous avez des emplois qui croissent à un rythme soutenu, vous avez les Américains qui continuent de dépenser. Je reviens des États-Unis et je peux vous dire que les Américains continuent de dépenser malgré l'inflation qui est extrêmement élevée aux États-Unis, surtout pour la nourriture et pour l'essence, donc ce que tous les Américains touchent tous les jours d'une certaine manière. Et effectivement, potentiellement, si les taux devaient continuer à rester élevés comme ils le sont actuellement, vous savez qu'il y a un grand débat de savoir maintenant si on va avoir deux baisses de taux ou pas du tout, alors qu'en début d'année, on parlait de 6 baisses de taux. Et si effectivement, à un moment ou à un autre, cela ne va pas impacter le consommateur. Et lorsqu'on parle du consommateur américain, évidemment, on parle aussi des banques.
Et
Donc, effectivement.
des taux qui restent plus élevés plus longtemps, est-ce que ça ne peut pas aussi impacter les guidances des entreprises, les perspectives qu'elles donnent au marché et les inciter à être prudentes là lors des publications qui vont arriver?
Tout à fait, exactement. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut voir pour les entreprises aujourd'hui, c'est que elles font face pas seulement à des taux élevés et qui ont été élevés depuis les plus élevés depuis plus de 30 ans, mais elles font aussi face à d'autres incertitudes dont on a parlé, la géopolitique, de l'inflation, etc. Donc, je ne pense pas que le récent changement de ton de la Réserve fédérale américaine et du consensus change quoi que ce soit au résultat actuel, peut-être le deuxième trimestre, effectivement, mais je pense que c'est l'ensemble de tous les éléments dont on a parlé avant qui pourraient amener à de la prudence. Mais vous l'avez dit en début de cette interview, c'est que pour le premier trimestre, on attend quand même des croissances de bénéfices de plus de 3% et des croissances des revenus de plus de 3% pour les entreprises du S&P 500. Et il faut rappeler qu'actuellement, c'est le consensus, hein, pour l'année 2024, donc toute l'année 2024, avec les analystes prévoient des croissances des bénéfices de plus de 10% et des croissances de revenus de plus de 5%. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Théoriquement toujours, c'est que le premier trimestre devrait potentiellement marquer la plus faible croissance des revenus et des bénéfices de toute l'année 2024. Donc effectivement, là, il faudrait vraiment qu'il y ait une baisse forte des guidance pour que la tendance s'inverse.
Donc ça veut dire que pour cette saison qui vient, on va surtout regarder du côté des guidance, pas forcément des résultats, pas forcément du passé, mais plutôt le futur. Et c'est Sarah qui sera aussi
Exactement.
arbitrée négativement, comme ça l'a été d'ailleurs pour JP Morgan vendredi.
Exactement, tout à fait. Et puis, si évidemment tout le monde regarde les banques parce que c'est un message aussi sur l'économie globale, mais évidemment tout le monde va regarder le secteur aux États-Unis, en Europe aussi, mais aux États-Unis, le secteur de la technologie et notamment Nvidia. Vous savez qu'Nvidia, bah,
C'est le
évidemment,
30
dans le
avril,
monde entier.
Nvidia, oui. Il faut évidemment noter dans l'agenda 30 avril, donc la publication du premier trimestre. Qu'est-ce qui est attendu
Exactement,
alors?
on est obligé d'en parler parce que c'est le fameux terme intelligence artificielle dont on n'a pas encore parlé. Ben évidemment, ça va être la clé de ces résultats des entreprises. Et il faut rappeler une chose qui paraît absolument folle ici, c'est que en termes d'attente de marge brute de Nvidia, on attend quand même plus de 76% dans la croissance de la marge brute. Donc, c'est absolument ahurissant dans la marge brute elle-même, pas dans la croissance, dans la marge brute elle-même. Et donc, ici, on sait très bien qu'il faudrait que si cette marge brute était légèrement en dessous, si les guidance dont vous parliez avant, Aude, étaient légèrement en dessous, eh bien, la sanction serait très importante. C'est vrai qu'on attend ça depuis plusieurs trimestres, puisque le hype, comme on dit, sur l'intelligence artificielle continue, hein, vous avez tellement de demandes. Eh bien, une nouvelle fois, on se pose la même question. Est-ce que, pour une fois, ces entreprises qui sont liées à l'intelligence artificielle vont donner des guidance qui sont en dessous, pour une fois, des attentes des économistes? Puisqu'il faut rappeler que lors de la publication des derniers résultats trimestriels, eh bien à chaque fois, même si les attentes du consensus étaient élevées, les entreprises, la majeure partie des entreprises, on parlait d'Nvidia, eh bien ont publié des résultats et des bénéfices qui étaient au-delà des attentes qui étaient déjà très, très élevées.
Oui, on sait qu'il ne faut pas forcément, enfin c'est même dur hein, de décevoir le marché sur ça. On peut parler aussi de Tesla, celle-là ce sera le 23 avril. Là ça va être compliqué aussi pour Elon Musk parce qu'à la fois il y a la baisse des livraisons et en fait ils vont tout essayer de jouer sur l'effet de communication sur le fameux robot taxi qui devrait sortir dans quelques mois.
Oui, tout à fait, mais c'est, on a un problème chez Tesla. Alors, il y a deux problèmes. La problématique des ventes de véhicules électriques, notamment en Chine, trois problèmes, l'arrivée de concurrence, notamment chinois, et d'un autre côté, on a un problème sur les marges. On a vu dernièrement que Tesla avait baissé ses prix, que ce soit en Europe, aux États-Unis et en Chine, pour dynamiser les ventes de véhicules. Et effectivement, on avait vu qu'il y avait un problème sur les marges. Alors, on verra un espèce de nuage de fumée, comme ça avait été fait, pour le Cybertruck, sur le robot taxi, vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, Tesla ne tire zéro profit et zéro chiffre d'affaires de ce robot taxi. Donc, il faut faire très attention une nouvelle fois sur ces résultats qui vont être publiés. On sait que la majeure partie des analystes ont abaissé leurs prévisions sur les marges, notamment de Tesla, mais lors de la dernière publication des résultats, eh bien, c'était une déception, ce qui avait fait plonger le titre de plus de 10%.
Oui, donc attention. Et enfin, la consommation qui reste forte aux États-Unis, hein, vous nous l'avez dit, notamment la consommation discrétionnaire. On peut forcément penser au luxe, hein, les États-Unis qui restent l'un des premiers marchés. Qu'est-ce que vous voyez pour le secteur du luxe? On aura d'ailleurs LVMH hein, en début de semaine.
Bah, écoutez, au-delà de la question qu'il faut vraiment poser à LVMH, c'est évidemment la question de la Chine. Alors, vous l'avez dit, il y a un rebond aux États-Unis, ce qui est très important. On avait vu que l'Europe était plus ou moins stable, mais vraiment, la clé, c'est la Chine, puisque pour la majeure partie des groupes, ça va représenter plus de 50% des ventes. Donc, est-ce que ce qu'on voit en termes de ventes et surtout des prévisions de ventes, on a vu que Richemont et notamment Swatch ont donné des prévisions assez optimistes sur les ventes en Chine, mais effectivement, est-ce que ces grands groupes, des plus grands groupes comme LVMH ou Hermès notamment, voient une stabilité dans la croissance en Chine ou un rebond? Parce qu'on rappelle quand même que demain, on aura les chiffres de la croissance du premier trimestre chinois qui devraient être aux alentours de 5%, mais on ne sait pas vraiment comment monitorer ces 5%, parce qu'on ne sait pas si c'est des vrais chiffres, ou on ne sait pas vraiment le momentum qu'il y a là. Et le message sur la Chine sera le plus important. Donc ici, on s'attend toujours à des bons résultats, mais la clé, ce sera vraiment la Chine.
Eh bien, merci beaucoup à John Plassard d'avoir essayé donc de lire l'avenir avec nous sur cette première saison de résultats de l'année.
Merci Aude.